Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu cette semaine vous parler du village des droits posé sur la place des Comtes du Maine samedi 13 décembre à Le Mans. Une demi-douzaine de tonnelles de jardin, une sono, quelques tables pliantes et des documents. Et des crêpes. Voilà comment vers 17h, 200 personnes étaient réunies sur la place des Comtes du Maine pour se défendre contre la résistible ascension de l'extrême droite. Ouais, il suffit de s'en donner les moyens, comme on dit. Parmi les exposants, des syndicalistes, donc par nature antifascistes. En tout cas, ils le disent comme ça.
Nous choisissons les solidarités, nous choisissons la lutte. Alors ce village, c'est un espace de résistance contre la haine et les discriminations. C'est un lieu de formation, d'information pour déconstruire les discours d'extrême droite. C'est un outil de mobilisation, nous l'avons prouvé, pour défendre nos droits, nos libertés, notre dignité. Alors on vous appelle à nous rejoindre en vous syndiquant si ça n'est pas déjà fait. Dans un syndicat, peu importe en fait, d'accord ? Il y en a suffisamment pour que vous puissiez trouver celui qui vous convient. Et regardez, il y en a deux super à côté de moi, la CGT et Solidaire. Donc merci à eux encore d'être là. Parce que nos droits ne sont pas négociables, parce que nos libertés ne se négocient pas, parce que l'avenir s'écrit avec la jeunesse et pas contre elle. Nous sommes syndicalistes, donc forcément antifascistes. Je vais le redire, nous sommes syndicalistes, donc forcément nous sommes antifascistes. Et nous sommes toutes et tous travailleurs et travailleuses, donc forcément nous sommes antifascistes. Alors ensemble, défendons nos droits et nos libertés.
Bon ben voilà, mais pourquoi faire un événement antifa ce samedi de la mi-décembre ? Eh ben peut-être parce qu'il y a, comme qui dirait, une menace. C'est peut-être pour ça que à peu près 80 personnes sont allées crier des slogans dans les rues de Le Mans. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à cause d'un rassemblement du souvenir vendéen, chaque mi-décembre, il y a aussi un rassemblement de FAF. Une association créée en 1932, le souvenir vendéen, pour perpétuer la version chouanne et vendéenne des guerres de Vendée. En 1793, une troupe de Vendéens et de Chouans est passée par Le Mans. Elle a été arrêtée par les troupes loyalistes à la République française. Et c'est cet événement, cette bataille, que le souvenir vendéen commémore depuis une dizaine d'années. Maintenant, les vieux qui formaient le gros du cortège du souvenir vendéen ont été rejoints par de jeunes royalistes à la sauce Action française, par des groupes FAF à la sauce Casual West, par les restes de l'Alvarium basé à Angers qui sont là régulièrement, et par des militants du Bastion Social et d'autres groupes ouvertement fascistes et nazis. Ouah, l'autre, comment il grossit le trait, comment il dramatise pour faire mousser la sauce ? Malheureusement, non. En 2019, le Barouf et le Lézard ont fait l'objet d'attaques par une cinquantaine de fachos. La police a fini par les nasser, mais elle en a gardé 5 seulement. En 2022, le cortège Antifa est attaqué près de la place des Comtes du Maine, justement, par une vingtaine de faf. Et en 2024, devant le Lézard encore, une quarantaine de personnes viennent faire de la provoque, gueulent des slogans parfois improbables, comme antifa pédophile, oui, j'ai toujours pas compris. Ils font des bras tendus et ils se barrent. Juste avant l'arrivée de la police, oui, il y a une espèce de concomitance. À chaque fois, la manif de la mi-décembre laisse des traces. En 2024, des autocollants mêlant des croix celtiques et des fleurs de lys étaient apposés dans le Vieux-Mans et au rond-point du tunnel, l'association des FAF et des royalistes. Cette année, on pouvait voir des autocollants comportant le symbole des SS Totenkopf, donc à tête de mort, hein, des SS qui étaient donc les gardiens de camps d'extermination et de concentration. Et on est quand même là dans le niveau un petit peu ultime du FAF nazi. Ouais, quand même, les SS Totenkopf. Ok. Et puis, bah, sur le même autocollant, il y avait un soleil noir, une espèce de roue avec à l'intérieur trois croix gammées, qui, bah, c'est pas simplement le symbole d'une série Netflix, hein, soleil noir. C'est surtout un symbole mystique nazi. Eh oui, parce que chez la SS, il y avait une mystique. Ces autocollants étaient ceux du Couscous Gang, avec pour chaque S de couscous, la rune des SS. Ce qui permettait de mettre le S et le S de SS sans que ça se voit trop. Un vrai concentré d'humour nazi, cet autocollant, qui n'est pas beaucoup utilisé, sauf par les nazis. Voilà donc le genre d'individu qui manifeste avec le souvenir vendéen aux alentours du 13 décembre chaque année au Mans. C'est peut-être pour ça que, bah, dans la rue... ça manifeste. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous renseigner sur larnape.info, larnape.info. Ça donnera des informations sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe, avec un petit agenda. Et puis, ben voilà, vous pourrez aller ensuite naviguer sur tout le réseau Mutu. Résultat de la manifestation Antifa, les autres rassemblés devant la cathédrale sont descendus devant la muraille côté Sarthe par les escaliers qui sont juste à côté de la cathédrale et ils sont remontés par là où ils étaient venus. Mais ils n'ont pas pu parader dans un vieux Mans qui avait été redécoré de slogans peu favorables à leur venue. Eh bien, c'est toujours ça de prix. On aurait pu vous parler de l'autoroute A69, où le concessionnaire a pris de nombreuses libertés au point de grignoter 40 à 50 hectares de plus que prévu dans les autorisations environnementales. Ouais, on doute de rien quand on construit quelque chose comme ça, puisque c'est tellement d'utilité générale. Pour en savoir plus, je vous conseille d'aller voir La Voie est libre, très bon site sur justement l'A69 et ses opposants, lvel.fr, et puis la déroutedesroutes.com, le site des collectifs contre les projets routiers destructeurs qui font du bien aux bétonneurs. Ah bah oui, toujours un peu, hein, mais beaucoup de mal à nos milieux de vie. Je ne sais pas ce qu'on doit choisir, le bien-être des bétonneurs ou nos milieux de vie. Oh la vache, mais quel dilemme! On aurait pu vous parler de l'industrialisation de l'élevage. L'épisode actuel de la crise agricole permanente nous permet d'en savoir plus sur l'agriculture industrielle. On apprend par exemple que les animaux se promènent beaucoup. Ils se promènent en camion à travers la France, mais aussi à travers l'Europe. Ils se promènent pour naître, ils se promènent pour être engraissés, ils se promènent pour être abattus, ils se promènent pour être découpés, ils se promènent pour être vendus. Wow ! Ils se promènent pour être intégrés à des plats préparés. Et au milieu de tout ça, bon nombre de paysans qui n'ont d'autre choix que de participer au marché avec les prix du marché et les fumeuses lois économiques qui vont avec. En tant que PK moyen pour lutter contre cet état de fait, il convient d'éviter la bouffe industrielle. Ouais, déjà. Autant que faire se peut et acheter plutôt des plats pas préparés, non ? Vous voyez, des trucs bruts qu'on cuisine après. Ah, des producteurs locaux. Eh, on en reparlera. On aurait pu vous parler aussi de fake news, de désinformation. Mais je trouve personnellement, et je partage ce sentiment, qu'on parle beaucoup trop du groupe Bolloré. Alors, ben, on a fini par se décider. Et on va vous parler encore d'une liste participative et citoyenne présente aux municipales. On va parler des municipales.
Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas vivre là.
Que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
Avant de parler de la Ferté-Bernard, cette semaine, Stéphane Le Foll à Le Mans, estampillé Parti Socialiste, bah Le Mans, hein, non, Stéphane Le Foll, a annoncé sa candidature au municipal. Il va devoir maintenant trouver 54 colistiers. Ça devrait le faire. Il a profité de cette annonce pour tacler, comme on dirait au football, la liste de droite soutenue par Christelle Morancé, avec laquelle veut travailler Marion Maréchal, l'ex de Reconquête, présidente du parti Identité Liberté. Mais franchement, actuellement, on ne peut pas parler de politique politicienne sans tomber sur de l'extrême droite au bout de deux ou trois noms. Ah ouais, non mais direct quoi, il y a tellement d'alliances à droite avec l'extrême droite que finalement, dès qu'on parle d'opposition politique, politicienne, avec des professionnels hein, bien sûr, on tombe direct sur de l'extrême droite. Ça commence à être compliqué, hein, tant cette extrême droite est présente dans les médias et dans la profession politique. Donc bah, Stéphane Le Foll a taclé Monsieur Sasso, Olivier Sasso, qui emmène la liste de droite. Pourquoi ? Ben parce que si tu es soutenu par Christelle Morancé, tu vas faire la même politique que Christelle Morancé, c'est-à-dire virer un certain nombre de subventions, je vais y arriver, de subventions aux associations, qu'elles soient culturelles ou sportives. Bon, ben, Olivier Sasso, lui, préfère couper court aux polémiques pour, je cite Le Maine Libre, qui cite Olivier Sasso, recentrer le débat municipal sur les attentes des habitants, des attentes simples et partagées, plus de sécurité, une ville dynamique créatrice d'emplois et d'opportunités et un cadre de vie agréable et verdoyant. Alors comment Olivier Sasso et sa liste ont recueilli les attentes des habitants? Ben, on leur posera la question à l'occasion. C'était tellement important de parler au nom des habitants quand on ne sait pas ce que veulent les habitants. Revenons à la Ferté-Bernard. Dans la dernière émission, nous avons vu comment est née et s'est structurée une liste participative et citoyenne à la Ferté-Bernard dans l'est du département de la Sarthe. À travers une interview du coordinateur devenu tête de liste, à savoir Alexis Gitz, qui se présente de nouveau lui-même.
Bonjour, Alexis Gitz, j'ai 26 ans, je suis un enfant de La Ferté-Bernard, aujourd'hui membre et coordinateur du collectif La Ferté Citoyenne qui prépare les élections municipales. Voilà, j'ai grandi à La Ferté-Bernard, je me suis fait connaître en cofondant, en présidant une association qui s'appelle Qui nettoie si ce nettoie.
Si vous voulez en savoir plus, on en parlait la semaine dernière de l'association en question. Et nous en étions justement dans cette interview à la fabrication du programme. Une fabrication qui commence par des propositions générales et une consultation des habitants que nous avons décrit la dernière fois. Et après, on écoute justement Alexis Gitz.
Donc la consultation citoyenne, elle vous a déjà amené à revoir une partie de ce que vous aviez proposé ?
En plus de nous donner des grandes pistes de mesures, ça nous a aussi permis de les hiérarchiser, mettre en place une stratégie. Ce volet démocratique, il est très important. Notre démarche a été saluée, y compris dans un contexte où quand même porter une voix alternative, ça fait peur. Donner la parole et le pouvoir d'agir à la population, c'est vraiment la priorité numéro une. Le deuxième axe qu'on a identifié, c'est remettre de la vie dans les quartiers, parce que ce qui est ressorti dans la consultation, c'est un fort sentiment d'abandon. On crée des nouveaux espaces, mais en fait, ça devient des dortoirs. Ils ne sont pas équipés en gestion de déchets, en aire de jeux pour enfants, en terrain de pétanque, voilà, des lieux où on va se rencontrer. Non, aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Il y a aussi une demande, évidemment, d'avoir une présence des services de proximité, des services techniques pour l'entretien des espaces, d'être entendu, d'avoir un minimum de reconnaissance. Le troisième volet, c'est le volet logement. Volet logement, à La Ferté-Bernard, on a 600 logements vacants, plus de 10% du parc de logements, c'est énorme. La conséquence, c'est qu'on a un centre-ville qui se vide de sa population. La preuve, c'est que La Ferté-Bernard, en 30 ans, a perdu 1000 habitants. Donc en fait, on vit un déclin démographique relativement important qui, mine de rien, risque de créer un cercle vicieux parce que moins de monde à La Ferté-Bernard, c'est moins de rentrées fiscales. Moins de rentrées fiscales, c'est moins d'investissement en attractivité, donc moins de monde. On a ce sujet de fond à traiter. Et le logement, c'est prépondérant. Ensuite, pour nous, il faut absolument investir dans la jeunesse, au service de tous, mais ça passe par donner des moyens aux écoles de fonctionner convenablement. L'ensemble des services jeunesse, plus globalement, c'est les crèches, le centre de loisirs, l'espace jeunesse, toutes ces institutions-là. C'est évidemment soutenir les associations culturelles et sportives. C'est proposer des loisirs intergénérationnels, réguliers, qui ne se concentrent pas seulement sur le centre-ville, mais qui vont aussi chercher les gens dans le quartier, près de leur lieu de vie. Le volet suivant, c'est un volet mobilité. Là encore, qui est absolument fondamental. Aujourd'hui, à La Ferté-Bernard, on a une ligne de bus le mercredi après-midi et c'est tout. Donc, de gauche, de droite, un retour qui est beaucoup revenu, c'est avoir besoin de se sentir en sécurité lorsqu'on se déplace à vélo dans les différents espaces. Donc, ça demande des aménagements, l'installation de pistes cyclables, mais c'est aussi travailler à la réduction de la vitesse dans le centre-ville. C'est avoir des infrastructures convenables, peut-être des vélos en location, ce genre de choses, des véhicules en autopartage. Puis après, il y a encore un ensemble de mesures sur le prendre soin, soutenir toutes les personnes qui peuvent être isolées, en situation de précarité. C'est le cas de beaucoup de nos aînés. On a une population très vieillissante et on sait que quand les personnes sortent un peu du monde actif, elles se retrouvent assez vite en situation d'isolement. Et puis évidemment, il y a des volets aussi sur l'attractivité économique. Mais en fait, en venant recréer du logement, le rendre plus accessible, avoir du logement décent, évidemment, ça participe à l'attractivité du territoire, à ce qu'il y ait davantage de monde dans le centre-ville, donc à soutenir les commerçants. On sait que nos industriels, ils ont beaucoup de mal à recruter. On est un bassin d'emploi important, très important même, mais paradoxalement on arrive à une limite en fait. Les personnes qui ne sont pas en emploi aujourd'hui sont des personnes très éloignées de l'emploi et on n'a personne entre les deux, on n'a pas de nouveau public parce que encore une fois on ne peut pas les loger parce qu'on n'a pas l'infrastructure, donc il y a une base à recréer Évidemment, en fait, ce qui est revenu en premier dans le cadre de la consultation comme source de préoccupation principale, c'est le volet santé, problématique nationale, problématique multifactorielle. Mais là encore, par exemple, quand on rencontre les services de l'hôpital, ils nous disent le principal frein au recrutement à l'hôpital aujourd'hui, c'est l'absence de logement. Bon, bah voilà, boum, on a réidentifié tout de suite cette thématique. Et puis, bah, pour soutenir la santé, là, il faut vraiment démultiplier les prises d'initiative. Voilà, c'est pas une construction en un jour, c'est sur le temps long. C'est sur le temps long.
Sur le temps long, un travail au long cours et non pas rythmé par des élections qui ont pour but, je le rappelle, à un grand nombre de professionnels de continuer à croûter. Depuis, 5 axes majeurs et 77 mesures ont été définies dans le programme. Ah pardon, dans ce qui donne un pré-programme. Pourquoi ? Parce qu'il peut être révisé. Un pré-programme de 77 mesures paru début décembre. Un pré-programme sur lequel la population peut donner son avis jusqu'au 18 janvier en allant sur le site La Ferté citoyenne.fr. J'encourage tous les partisans de la démocratie à aller voir à quoi ça ressemble la consultation de la population et pourquoi pas se rapprocher de la liste pour leur demander des conseils. Monsieur Sasso, ça peut peut-être vous intéresser. J'encourage donc tous les candidats, membres de listes de partis, à se renseigner sur le sujet. Pêle-mêle dans les mesures, les 77, on trouve la mise en place d'une mutuelle communale en complément de Sarthe complémentaire santé à destination des étudiants, retraités, travailleurs indépendants et personnes à faible revenu. On y reviendra sur une mutuelle communale. On ne peut pas tout faire en une émission. Étude d'une régie publique de l'eau pour 2034. Oui, il y a des contrats qui courent. Mais la Ferté-Bernard n'est pas en régie municipale, mais plutôt sous la coupe d'une entreprise. Créer une ferme en régie intercommunautaire tendant vers la structuration d'une plateforme logistique de circuits alimentaires courts et de proximité pour alimenter les cantines, épiceries solidaires et restaurateurs locaux. Voilà, ça c'est pas mal. Et je crois qu'on en a déjà parlé dans les émissions précédente d'une régie, d'une ferme en régie. Doter la commune d'équipements de production d'énergie solaire. Pourquoi pas. Diffuser en direct les conseils municipaux. Ce serait pas mal ça, par exemple dans une grande ville comme Le Mans. Et organiser des temps d'information au fonctionnement des institutions, comptes publics, démocratie participative, gestion de projets, etc. La formation du citoyen, autant de mesures tendant à rendre la commune plus autonome dans ses décisions, dans sa production de ressources et dans la formation des citoyens, élément fondamental d'une démocratie. Les volontés démocratiques, c'est le moins que l'on puisse faire. Dans une démocratie. Et au sein du collectif, comment ça se passe la démocratie ? Alexis Gitz nous renseigne.
Comment se passe la démocratie dans votre groupe ? C'est-à-dire que vous êtes un collectif, n'importe qui peut participer. Quelle est la voix de chacun ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie ?
Une de nos premières missions au sein du collectif, c'est d'établir effectivement une règle de fonctionnement. On a élaboré une charte, élaboré une fiche stratégique. Et donc aujourd'hui, les décisions elles sont prises en collectif. Systématiquement, principalement à la majorité des membres. Ça peut varier selon les sujets. Parfois, il y a besoin d'un consensus sur les sujets vraiment structurants ou lorsqu'on a un désaccord relativement important. On a l'habitude que ça se passe quand même de manière assez fluide. Il y a une vraie bonne entente dans le collectif. Effectivement, oui, il est ouvert à tous. On a structuré quand même la chose de manière à se protéger un peu. Donc là encore, c'est une question d'équilibre. On invite plutôt les personnes à participer d'abord au groupe de réflexion. Participer à quelques réunions et puis si humainement ça se passe bien, n'importe qui peut intégrer le noyau, participer à de nouvelles réunions un peu plus structurantes et puis ensuite du noyau on refait fonctionner l'ensemble des groupes de réflexion, proposer aux gens progressivement de participer évidemment aux réunions mais aussi à la communication, à la recherche des membres de la liste désormais, à tous ces sujets-là.
Quand vous parlez de noyau, il est fort de combien de personnes maintenant ?
Dans le noyau, ça fait un moment qu'on a 20 personnes. 20 personnes, voilà, avec un collectif d'une soixantaine de membres. On espérait à un moment donné vraiment doubler ces chiffres, notamment au moment de l'été. Et finalement, on a été confronté quand même à ce que j'évoquais un peu précédemment. Beaucoup de soutien, notamment de la démarche démocratique. Mais bon, et en même temps, c'est relativement peu surprenant quand même. S'engager, se positionner politiquement, c'est pas neutre. Certains ont des places, côtoient des personnes de la municipalité en place, etc. Et donc ça a grandement freiné notre fleurissement.
En gros, j'adore ce que vous faites, mais s'engager, c'est s'exposer. Et du village à la métropole, le soutien à l'un ou à l'autre peut amener des représailles. Chacun a une histoire à raconter sur ce sujet, hein, que ça aille du village à la métropole. Et alors, à La Ferté-Bernard, puisqu'il faut faire une liste complète, eh bien, elle dépend du nombre d'habitants de la commune. Pour Le Mans, c'est 55. Pour La Ferté-Bernard, combien cela est-il? On rejoint à nouveau... Alexis Gitch, je vais y arriver, pour nous parler de ce sujet.
Vous avez parlé d'une liste, en effet, il faut une liste pour les municipales. Comment vont être désignés les membres?
Le premier des enjeux, c'est d'avoir suffisamment de noms à mettre sur une liste, en fait. Et donc concrètement, à La Ferté-Bernard, on doit constituer une équipe de 29 personnes. Ce qui est déjà une mission en soi. En fait, aujourd'hui, je dirais qu'on pourrait avoir une liste complète. La réalité, c'est plutôt qu'on a 30 personnes pour occuper les 10 dernières places de la liste et que devant, pour trouver les 5-10 premières, c'est très complexe parce qu'effectivement, il y a de fortes chances que les personnes soient élues et derrière, c'est un engagement pris sur 6 ans. Donc mon premier point, c'était de dire, voilà, idéalement, on aurait aimé désigner les membres avec un vote de l'ensemble des membres du collectif. Ça va s'avérer compliqué parce qu'on aura peu de choix. Ceci étant, pour l'ordre, là, effectivement, ça va être un vote des membres du collectif. On va s'appuyer à la fois sur l'engagement qui a été mené au sein du collectif par les membres, sur évidemment leur situation personnelle et leur volonté propre. On aimerait que ce soit encore plus démocratique, plus global. Bon, on est un peu freiné par les craintes, par l'ampleur de la tâche qui fait que beaucoup indiquent ne pas souhaiter vouloir y aller. Je sais que parfois, il y a même des formats qui sont intéressants, qui amènent, y compris des personnes qui ne veulent pas forcément y aller, à être nommées et derrière à réfléchir à nouveau à la question.
L'idée, c'est que, vu que ça fait pas très très longtemps que ces listes citoyennes et participatives... comme si la démocratie n'était pas citoyenne et participative par essence, puisque une partie de la population ne participe plus vraiment à la vie politique, l'engagement démocratique, l'engagement politique est compliqué.
Oui, parfaitement. Ça se voit dans tous les pans de la société aujourd'hui. C'est moins de bénévoles, c'est un syndicalisme qui souffre énormément, et a fortiori dans le champ politique, dès lors qu'il faut débattre, c'est complexe. Moi, j'ai passé 7-8 ans à être engagé associativement de manière quotidienne. Aujourd'hui, je suis de ceux qui militent effectivement pour que toutes ces personnes qui sont dans le milieu associatif monte un peu un créneau, change le rapport de force pour ne plus être dans une dynamique de dépendance aux subventions publiques. Voilà, on a un enjeu aujourd'hui d'accélérer, de porter une voie alternative, et un enjeu aussi pour tous les autres qui ne sont pas engagés, qui sont un peu hors du champ aujourd'hui, oui, d'aller rediscuter, de pas se lancer dans des promesses qu'on ne tiendra pas, mais plutôt de faire preuve de sincérité, de proximité, voilà, de recréer des relations humaines et surtout, et quand même de l'espoir derrière tout ça. L'espoir qu'on peut vraiment améliorer le quotidien de personnes qui sont en grande difficulté.
Là encore, la participation à un conseil municipal, c'est un engagement qui n'est pas du tout facilité dans nos fumeuses démocraties représentatives. Car les indemnités, par exemple, ne suffisent souvent pas à remplacer un salaire décent pour les adjoints, alors que la charge de travail peut dépasser ce qu'on appelle un temps plein. Et puis, en effet, l'engagement au service du collectif, c'est pas à la mode dans une société qui promeut la philosophie libérale, dont l'une des valeurs est l'égoïsme de la réussite personnelle. En plus, il faut avoir des compétences qui, comme toute compétence, s'acquièrent. Mais bon, expert ou pas, Alexis Gitz nous informe sur ce sujet.
Les communes sont toujours obligées de respecter ce qu'on appelle leur champ de compétences. Il y a aussi l'histoire des chefs de file, c'est-à-dire que la communauté de communes peut prendre une partie de ce que la commune peut faire. Donc quand vous créez ce programme, vous êtes obligé, vous, d'avoir une espèce d'expertise pour savoir ce que vous allez pouvoir faire ou pas.
Tout à fait. Ça a commencé notre travail par un état des lieux, d'abord de sortir les données de l'INSEE, des données d'analyse territoriale. C'est passé aussi par solliciter la municipalité pour avoir accès à la gestion financière. Pour le coup, on a une municipalité qui a été très réactive, qui nous a donné accès aux documents comptables de 2022 à 2025. pour se faire une meilleure idée voilà, du fonctionnement. On s'est rapproché de réseaux aussi, le réseau Fréquence Commune et le réseau Action Commune, qui sont des réseaux créés justement par des listes citoyennes dont certaines ont tenté leur chance en 2020, certaines ont gagné, d'autres ont perdu, mais dans tous les cas, elles ont appris et ont souhaité créer cet espace, ce réseau, pour accompagner justement l'ensemble des autres listes citoyennes. Donc là, c'est des vidéos, on peut bénéficier de conseils en direct également sur la manière de se structurer, sur la manière de... Il y a une dynamique de, évidemment, il faut absolument que les citoyennes et citoyens montent en compétences. Donc ça passait aussi, comme je le disais précédemment, par rencontrer des acteurs du territoire, spécialistes de leur domaine. Et puis en matière de compétences, l'idéal, ça reste de rencontrer des élus en place, des gens qui connaissent les sujets, qui vivent les sujets. Également dans les entretiens qu'on a réalisés, on a réalisé des entretiens avec des maires de la communauté de communes, comprendre aujourd'hui comment se passe cette politique. En l'occurrence, si pour schématiser, on est davantage dans du rapport de force qui amplifie le sentiment de ne pas être pris en considération, plutôt que de synergie territoriale qui nous semble beaucoup plus évidente. Il y a des retards importants sur le territoire en matière de diffusion de la santé, d'organisation des mobilités, de structuration d'infrastructures importantes pour l'ensemble du territoire. La Ferté-Bernard a cette charge de la présidence de la communauté de communes. Elle applique, joue de son positionnement. On n'est pas persuadé que ce soit la meilleure manière de faire.
Donc plus de concurrence que de coopération?
Oui, de la concurrence, en tout cas du rapport de force. Ça veut dire que les élus fertois arrivent à la communauté de communes avec un projet qui souvent revient à financer les infrastructures sur la Ferté-Bernard. Malgré qu'on ait une communauté de communes très élargie, c'est quand même 33 communes, des communes qui sont loin de la Ferté-Bernard, qui sont plutôt dans des démarches de sécurisation de leurs compétences municipales, justement. Donc bon, plein de choses à repenser, là encore, il faut sortir un peu de nos petites bulles, de nos petites visions, pour construire un projet politique, littéralement, un projet qui implique le plus grand nombre et qui se fasse en faveur de l'intérêt général.
Ah, pas facile, l'intérêt général, c'est pas très vendeur en ce moment. Eh bien, on continuera quand même à en parler en donnant encore la parole une dernière fois à Alexis Gitz la prochaine fois pour qu'il conclue un petit peu et qu'on se dise que l'engagement, finalement, c'est peut-être pas si mal. Mais en attendant...
Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas vivre là.
Que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
On a juste le temps de vous dire que sur sarthe.demosphère.net et sur larnapé.info, vous avez des infos. Eh ben, il s'agit maintenant d'aller y faire un petit tour. Et puis après, on éteint son ordinateur, c'est pas la peine de gaspiller de l'énergie. Allez, au revoir.